On l'a vu pendant le confinement préparer des repas pour les soignants ou en servir dans le département de la Seine-Saint-Denis à la peine. Il est comme ça, Thierry Marx. Un cœur bat sous la toque. Il n'oublie pas d'où il vient. Ainsi, c'est en souvenir de ses errances scolaires que le chef étoilé a créé il y a 8 ans un réseau d'écoles de formation cuisine mode d'emploi réservé aux chômeurs. Quelle vie sous masque dans les restaurants. Est-ce que ça peut durer comme ça très longtemps? Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Merci d'être dans le studio de Culture Média ce matin. Il y a quelques semaines, interrogé sur la crise sanitaire, vous disiez qu'elle avait un mérite, cette crise. Le virus nous refaisait peuple, disiez-vous. Est-ce que vous y croyez toujours?
Oui, toujours. Oui. Je pense que les grandes épreuves, on n'avait pas connu d'aussi terribles depuis la guerre, peut-être, même avant. Et je pense qu'elles nous obligent à nous entendre et à refaire cette introspection absolument nécessaire pour repartir de l'avant et pas rester dans l'hypnose du Covid. Il va falloir affronter tout ça.
Qu'est-ce que vous appelez l'hypnose du Covid?
Ben, quelque chose qui nous ralentit, qui nous bloque, qui nous confine. On a été confinés, nous n'oublions pas. Et effectivement, on était paralysés comme ça, chacun chez soi. Et je pense qu'au contraire, maintenant, il faut sortir de cela. Bien sûr, les gestes barrières, c'est une évidence, mais il faut regarder la vie en face et la vie qui reste à vivre, pas celle qui nous enferme dans une cloche de verre.
Vous n'avez pas le sentiment quand même que le peuple se craquelle un peu entre les jeunes, les vieux, ceux du milieu? C'est pas le même destin, forcément.
J'ai pas eu cette impression du tout pendant le confinement, et même encore maintenant, je trouve que les jeunes ont été présents. Et moi, pour avoir servi les repas pour les soignants, c'était à l'initiative de jeunes gens, ne l'oublions pas, bien souvent, dans la majeure partie des cas d'ailleurs. Et puis les vieux se disent, oui, on a encore une carte à jouer, il faut la jouer. Donc il y a ce mode de transmission qui n'est pas à sens unique, qui n'est pas une transmission des anciens vers les jeunes, et des jeunes qui ne seraient là que pour recevoir une transmission, mais les jeunes nous ont montré qu'ils étaient prêts à en découdre aussi face à ce coronavirus. Mm-hmm. Donc je trouvais ça qu'il y avait à ce moment-là, en tout cas, cette sensation de faire peuple.
Oui, alors je pensais aussi à ces petits actes de violence quand même qu'on voit, des gens qui portent pas le masque, on leur fait remarquer et ça dégénère. C'est un épiphénomène pour vous ?
Il y a une tension, je veux dire, il y a une tension due à l'anxiété du lendemain, et je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la lumière exagérément sur des épiphénomènes qui sont extrêmement violents. On parle souvent des quartiers dans ces cas-là, ou des zones qui sont un peu des zones sensibles, et on fait écho très largement des épiphénomènes, et qui sont par moments dramatiques, je l'entends, mais il y a aussi des gens qui vivent ça normalement et qui essaient d'affronter la vie normalement.
Alors Thierry Marx, comment ça se passe dans la restauration en général, parce que évidemment c'est votre secteur, et chez vous en particulier?
Alors, dans la restauration en général, j'essaie de faire un petit tour de France de mes confrères qui ont l'air de plutôt pas mal repartir pendant cette période estivale, finalement. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant que les...
Les terrasses qui ont sauvé la donne.
Terrasses, mais mes confrères qui sont aussi des confrères étoilés, les bistrots, la bistronomie, enfin tout ça, repart plutôt bien en milieu estival, en milieu rural. Et puis Paris, on est un peu à la peine, on manque très cruellement de touristes. Mmh. Et là...
C'est Paris qui souffre, diriez-vous, oui.
Aujourd'hui, c'est Paris qui souffre beaucoup, parce qu'effectivement, l'espace aérien est fermé et on manque très, très, très largement de touristes.
Mmh, par exemple, au Mandarin Oriental, où vous officiez...
Oui, réouverture septembre.
Ah oui, c'est fermé, d'accord.
Là, on est fermé, comme beaucoup d'établissements palaces parisiens.
Parce que c'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine, c'est quand même 450 personnes en moyenne à mobiliser, et ça se justifie pas. On se prépare pour la réouverture de septembre, bien entendu, mais on est quand même extrêmement prudent.
Ouais, vous êtes condamné à la créativité ?
On est condamné d'abord à l'introspection, savoir comment on va repenser notre métier, et ensuite effectivement à la créativité, il va falloir être innovant.
Alors, où en est l'état de vos réflexions, puisque vous êtes en pleine introspection, Thierry Marx?
Oui, on regarde un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, et voir est-ce qu'on garde ce qui ne fonctionne plus.
Comme
et
quoi?
On repense à des choses. Il y a des choses qui sont des choses qui fonctionnaient bien, où il y avait vraiment des lieux de restauration où on pouvait accueillir beaucoup de touristes. Et là, eh bien évidemment, il faut repenser ces lieux pour accueillir peut-être une clientèle plus franco-française. Et puis, on a augmenté limiter, par exemple, toutes les capacités à faire de la vente à emporter dans beaucoup de nos établissements.
Est-ce que du coup, ça joue sur le contenu des assiettes, fatalement ?
Non, ça joue pas sur le contenu des assiettes. Effectivement, pour la restauration dite étoilée, des cuisines un peu signature, il est extrêmement difficile de faire livrer des plats qu'on fait à la minute pour chaque client. Mais dans certains établissements, on peut faire de la cuisine à emporter, on y travaille. Et puis se recentrer aussi sur nos approvisionnements, comment on améliore les circuits courts, comment on améliore la relation que nous avions avec notre agriculture, parce qu'elle est importante. Pas oublier que l'enfant naturel de la gastronomie, c'est l'agriculture. Mmh. Et il faut travailler avec eux en ce moment, et on repense un peu nos assiettes pour pouvoir continuer à faire plaisir à nos clients.
Et vous pensez véritablement que ce confinement, cette étape obligée, va produire de bonnes choses ? Des choses qui subsistent.
Je fais partie de ces gens qui croient que ce confinement, enfin cette étape Covid, va faire repartir de bonnes choses. Moi, ce qui m'a choqué pendant le Covid, c'est qu'on ait parlé beaucoup de vaccins et peu d'alimentation. Et il y a un vrai sujet sur l'alimentation, sur nos sols, sur la qualité de notre agriculture. Et là, aujourd'hui, on voit le monde agricole qui se remet en question, qui s'est remis en question depuis quelques années. Et là, il faut les aider à faire cette transition encore plus rapidement. Mais ce que j'ai regretté pendant ce phénomène Covid, c'est qu'on n'ait pas parlé d'alimentation, et on s'est aperçu que les gens qui avaient été les plus maltraités aussi par ce Covid, c'est des gens qui souffraient aussi d'une alimentation qui n'était pas qualitative.
Mais c'est vrai que ce sont toujours les mêmes qui souffrent en réalité, hein, quoi qu'il arrive, quand il y a des grands drames comme ça, ce sont, on pourrait dire quoi, les gens des classes populaires en priorité.
Bien sûr, les gens qui sont en fragilité, éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi, dans des minima sociaux, effectivement, c'est là où il faut être très présent pour reconditionner un petit peu les choses et de faire prendre conscience que l'alimentation est quand même un allié pour sa santé.
Et voir tous ces gens cuisiner pendant le confinement, ça vous a fait plaisir, j'imagine.
Ah, moi, j'ai trouvé ça enthousiasmant de redécouvrir la cuisine, le partage, parce que la cuisine, c'est ça, qu'elle soit exceptionnelle ou pas, par moment, c'est quand même le partage avec les autres et le lien social que ça représente.
On va parler de vos écoles dans deux minutes, cuisine, mode d'emploi, de ce qu'il s'y passe, Thierry Marx. On revient tout de suite, bonne matinée à vous. C'était au cœur du mois de juillet et l'école mode d'emploi de Champigny-sur-Marne avait mis les petits plats dans les grands. Ce jour-là, les cuisiniers en formation recevaient la visite d'Emmanuel Macron. Vous étiez là, évidemment, Thierry Marx, pour pas mal de raisons qu'on va développer. D'abord, cuisine, mode d'emploi, c'est le réseau d'écoles que vous avez créé il y a maintenant 8 ans. Combien d'établissements à ce jour partout en France?
Il y a 9 écoles maintenant créées et puis des écoles qui se déplacent, des écoles mobiles qui vont dans les régions proposer de la formation professionnelle en cuisine, en boulangerie, dans les métiers des produits de la mer et puis dans les métiers du service.
Alors, quel résultat, que deviennent les anciens élèves? Ils sont véritablement devenus commis de cuisine, ils ont trouvé du boulot?
Alors, le public que nous recevons, c'est un public éloigné de l'emploi, voire très éloigné de l'emploi, en précarité, ou des personnes avec des accidents de parcours qui sont des fois des accidents de parcours un peu compliqués. Aujourd'hui, les résultats sont enthousiasmants parce que c'est 92% de retour à l'emploi. Ça a été près de 4000 personnes formées. Et ce qui m'a enthousiasmé aussi, ça a été 7% de création d'entreprise.
Ah ouais.
De gens qui ont fini par créer leur entreprise. Donc ce qui nous a imposé de aussi revoir notre copie, de se dire il faut faire une pré-préparation à cuisine mode d'emploi pour des personnes qui sont effectivement des fois très éloignées de la culture française, pour les aider à rentrer dans cuisine mode d'emploi, et puis faire un cuisine mode d'emploi sup pour ceux qui ont suivi le parcours cuisine mode d'emploi et qui après quelques années souhaitent passer le cap d'être chef d'entreprise. Donc là on crée un cuisine mode d'emploi sup.
Oui, c'est ça que vous appelez le bachelor?
Alors le bachelor, c'est tout à fait autre chose.
Non, c'est encore autre chose.
C'est autre chose, c'est une formation qu'on va proposer.
Vous êtes dur à suivre, hein?
Oui, parce que on voulait vraiment... On parle beaucoup des quartiers, des quartiers CQP, enfin, QPV, pardon, quartiers politiques de la ville, mais on parle peu du monde rural, et je pense qu'il faut aussi aller très fortement s'implanter dans le monde rural pour travailler avec le monde rural, pas uniquement dans l'agriculture, mais aussi dans la formation professionnelle. Moi, je crois à une France des terroirs et des territoires fortes. Et c'est comme ça qu'on réussira.
C'est votre côté Jean Castex?
C'est pas mon côté Jean Castex, j'apprécie le personnage, mais c'est pas mon côté Jean Castex, mais je crois à ça. Bon, quand j'étais gamin, il y avait une carte de France qu'on nous imposait sur le tableau noir. Il y avait plein de petits vaisseaux, ça me faisait penser à un cerveau comme ça, avec plein de connexions. Et je trouve que quand tout ça fonctionne bien, eh bien, on ressent l'unité française et la force d'un produit français.
Si cette école de Champigny-sur-Marne vous tient particulièrement à cœur, c'est aussi parce que vous y avez passé votre enfance, oui, votre adolescence. C'était des années un peu chaotiques, on peut le dire.
C'était des années compliquées, c'est-à-dire qu'on m'a remercié très vite pour une scolarité qui était empirique. Autant j'avais compris la scolarité primaire à Paris, où il fallait apprendre à lire et à écrire, à compter, que le collège, j'ai rien compris. Et je venais de la cité des Boulereaux et de la cité des Beaux-Labbés. Et effectivement, à 13 ans, on m'a proposé très rapidement de faire une classe dite de transition. Je ne sais pas à quoi correspondait la transition à l'époque, pour me proposer une formation de mécanicien, de mécanique générale. Donc évidemment, ça a été assez empirique.
C'est compliqué de ne pas être plombé assez tôt et assez définitivement dans la vie. Hein. C'est contre ça que vous luttez ?
Oui, les combats sont amenés là-dessus pour pas que les personnes se croient assignées à un quartier, assignées à une extraction sociale, et puis que finalement qu'un système les assigne à un quartier ou à une extraction sociale. Donc il faut vraiment lutter contre ça pour éviter ces étiquetages trop brefs, trop rapides, et qui freinent énormément d'épanouissement professionnel pour énormément de personnes. Et je pense que depuis 30 ou 40 ans maintenant, on a tellement créé de frustration qu'on est sur des poudrières par moment.
En regardant votre parcours, j'ai vu que vous étiez engagé dans l'armée et puis que dans les années 80, vous êtes retrouvé casque bleu durant la guerre du Liban. Donc j'imagine que vous êtes très concerné par l'actualité d'il y a 15 jours dramatique.
Oui, on était force française à Beyrouth, mais c'est vrai que tout ce qui peut toucher Beyrouth ou ce qui peut s'y passer, notamment une explosion, ça réveille souvent des maux. Pour plein de gens qui ont connu cette période, oui.
Ce pays est vraiment maudit, non ?
J'ai du mal à le comprendre. C'est peut-être un des seuls pays que j'ai du mal à comprendre. C'est un pays qui avait tout, et la culture et la connaissance. Les Vénitiens étaient quand même des gens merveilleux, des grands voyageurs. Et toutes les cultures se retrouvaient dans ce mouchoir de poche qu'est le Liban. Et quand on voit qu'on n'arrive plus et qu'on est à la limite de l'errance sociale au Liban, c'est quand même très inquiétant.
Mmh. Vos écoles, tout ce que vous lancez, c'est une façon de rendre ce que la vie vous a donné ? Ou la formule est un peu cliché ?
Oui, je voudrais dire ça comme ça, mais je ne sais pas le dire comme ça.
Pourquoi ?
Je crois pas. Je vais vous dire pourquoi c'est né d'abord. En 2004 ou 2006, j'ai bénéficié d'une émission qui s'appelait Envoyé spécial, et où on racontait mon parcours. Et une de vos consoeurs de Libération avait écrit un papier sur moi qui s'appelait Ceinture noire et cordon bleu, l'anti-terroir, parce que je venais pas justement de cette ruralité qui fait des cuisiniers.
Mais ça vous a blessé ?
Ça m'a pas blessé, au contraire, ça m'a enthousiasmé, parce que il y a énormément de gens qui m'ont écrit, issus des quartiers d'où je venais, et qui m'ont raconté la même vie que moi. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et sans se faire quelque chose, c'était de croiser la route de Véronique Colucci au Resto du Cœur, et qui m'a dit, mais la formation professionnelle, t'y crois ? Ben alors vas-y, fais un truc pour là-dedans.
Et vous l'avez fentier. Fait parce que c'est bien de faire des choses, et pas simplement d'en parler.
Ouais.
Thierry Marx est avec nous dans Culture Média. On revient, on revient d'ici 2 minutes, c'est pas long, quittez pas. Thierry Marx, nous discutions, pour vous dire la vérité, avec Thierry Marx durant la pub. On discutait de ses cuisines mode d'emploi, et on va terminer d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire.
Oui, mais surtout des gens à remercier. C'est-à-dire que sans Philippe et Véronique Carillon, qui me soutiennent dans ces actions depuis 10 ans maintenant, et qui ont mis en place tout ce système de cuisine mode d'emploi.
Alors il y a une phrase que je trouve épatante, en fait. Vous dites... Quand les gens arrivent, postulent pour faire cette formation, vous dites « votre passé ne m'intéresse pas ». C'est
oui.
Une manière de dire que...
Il faut refaire une page blanche.
Oui.
Nous, on dit rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est le projet. Il faut avoir un projet pour relever la tête. L'engagement, c'est de lâcher la main du passé quand le passé a été un peu compliqué. pas de qui on est, pas de son patrimoine, mais lâcher la monnaie passée. La régularité, pendant 11 semaines, c'est la monnaie d'échange. La formation est gratuite, mais la monnaie d'échange, c'est pas d'absence, pas de retard. Sinon, évidemment, on peut pas valider le diplôme, qui est un diplôme qui est reconnu par la branche, qui s'appelle un CQP, et ça, on y tient beaucoup. Mais effectivement, la fraternité, c'est pas de porter l'autre, c'est d'aider l'autre à s'épanouir. Et je me souviens, pour clore mon propos, d'un directeur de l'administration pénitentiaire qui était en Norvège, et on buvait un café un matin et on s'interrogeait sur le bon sens de ce que nous faisions. Et au final, il me dit, tu sais, notre mission, c'est de faire les meilleurs voisins possibles. Et je crois que les gens qui ont des projets sont de bons voisins, quand ce sont des projets positifs.
Mmh. Ça paraît simple, dit comme ça, mais je pense que
oui, mais c'est bien aussi de rationaliser les choses et de ne pas avoir trop d'ambition non plus. La transmission, c'est pas de mettre les gens en conformité, c'est de faire des hommes libres.
Mmh. Thierry Marx, depuis que vous avez commencé à cuisiner, et sans vouloir vous enfoncer, ça ne date pas d'hier, le contenu des assiettes a sensiblement évolué. Est-ce que c'est très très clair, on mange mieux aujourd'hui dans ce pays qu'il y a 10, 20, 30 ans en arrière?
Je crois très honnêtement qu'on mange mieux aujourd'hui que nous mangions dans le passé, bien que moi je m'attache beaucoup à la cuisine du 18e siècle, parce que je trouve qu'elle a une... La gastronomie française s'est vraiment lancée au 18e siècle avec le jardinage. Mais aujourd'hui, sur notre interrogation sur notre nutrition, je pense que l'intérêt est de se pencher sur notre agriculture. Et c'est ce que nous faisons avec Bleu Blanc-Cœur, par exemple, qui a une activité forte depuis 20 ans sur le monde agricole, et d'essayer encore d'améliorer et la vie de nos agriculteurs et la qualité de nos produits que nous avons dans nos assiettes. Ça, c'est une démarche forte. Et évidemment, après, la grande force de la gastronomie française, c'est d'avoir des tas et des tas de talents qui sont capables de faire des signatures de cuisine absolument incroyables, et ça dans toute la France.
Pourquoi les Français sont bons en cuisine ?
Parce que les Français aiment le lien social lié à la cuisine. C'est-à-dire qu'on aime aller au restaurant, on aime parler cuisine, ça nous apaise, ça nous rassemble, ça nous fait débattre sainement. C'est ça la cuisine. C'est pas qu'elle soit forcément bonne ou mauvaise, que vous appréciez un jour la cuisine du bistrot, ou un jour un sandwich, ou alors la cuisine d'un triple étoilé, c'est pas le sujet. C'est de dire, on aime parler gastronomie parce que la gastronomie, c'est du lien social apaisé.
Oui, mais c'est pas tout, parce que bon, ce lien social est très très important, mais il y a quand même un savoir-faire mondialement reconnu, donc pourquoi ?
Bien sûr qu'il y a un savoir-faire mondialement reconnu, et surtout il y a un patrimoine solide. J'ai parlé de la cuisine du 18e, on pourrait aller un petit peu en amont, mais la cuisine du 18e
a créé... Il y avait quoi alors, la cuisine du 18e ? Il y avait quoi dans les assiettes au 18e ?
Non, il y a surtout un travail sur le jardinage, une approche esthétique de la... On a fait remonter toute cette cuisine de la ruralité dans notre Paris, finalement, et puis on a amélioré au fur et à mesure des années tout ce talent. Au 19e siècle, c'était Gouffet, qui a laissé un patrimoine fort, ensuite ça a été Escoffier, qui alors lui a vraiment laissé une trace essentielle sur la construction de notre gastronomie. Et aujourd'hui, on a moult talents qui sont là pour aider jeunes gens qui aujourd'hui ont des signatures de cuisine absolument incroyables. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je sais que cette période est anxiogène, mais je ne suis pas du tout inquiet pour le devenir de notre métier, le devenir de la restauration. Et je pense que, encore une fois, je le redis, mais l'enfant légitime de l'agriculture, c'est la gastronomie. Donc, rassemble-nous, créons ce fonds d'investissement que nous voulons
créer. Que vous réclamez ces dernières semaines.
Mais bien sûr, oui. Parce qu'il faut absolument investir dans une agriculture, l'aider à faire cette transition absolument nécessaire en lui donnant les moyens de le faire, et ça accompagnera une gastronomie qui, elle aussi, qui est en restructuration, je dirais, en ce moment.
Mais quand vous dites c'est en train de se faire, ça veut dire que les autorités politiques l'ont décidé, ça vient
non,
d'elles
y a
ou...
pas que... Moi je pense qu'il faut aussi à un moment donné arrêter d'attendre tout du monde politique. À un moment donné, il faut faire bouger les cercles. Alors c'est pas agréable, on dérange par moment, quand on a parlé de formation tout à l'heure, on a dérangé des cercles. Et puis à un moment donné, on finit par dire ah oui, c'est évident, il fallait le faire. Moi je crois qu'aujourd'hui, le monde agricole a besoin de ce front de transition pour continuer. Je vois tous ces jeunes agriculteurs, et j'étais encore avec de jeunes agriculteurs près de Domfront il y a deux jours, et je vois ce qu'ils investissent en temps, en argent, des fois à la limite de leur trésorerie pour apporter des produits de grande qualité, de qualité nutritionnelle et de qualité en termes de saveur. Donc il faut les aider à faire cette transition. Mm-hmm.
Pour revenir au contenu des assiettes rapidement, est-ce qu'il y a des produits qui sont devenus des ennemis, comme le sucre? Vous diriez que le sucre est un ennemi aujourd'hui?
Je reprendrai cette vieille phrase de Paracels, qui me paraît évidente, qui dit « c'est la dose qui fait le poison ». Pas plus. Je veux dire que je ne peux pas diaboliser un produit. Je ne sais pas le faire. Mais par moment, la surdose de sucre, oui, dans les produits industriels, lourdement transformés, où on y ajoute beaucoup de sucre et beaucoup de sel, et moi je dénonce plutôt la théorie du low cost, du tout pas cher. C'est ça qui m'ennuie. Mais je pense que c'est la dose qui fait le poison.
Ouais. Ça reste quand même un truc de riche de bien manger.
Non, surtout pas. Surtout pas. Je pense qu'on doit aussi à cette culture de la ruralité qui avait une cuisine assez pauvre. N'oublions pas ces régions du centre, de l'Aveyron, du Lot, où on avait des cuisines très, très modestes et finalement qui ont apporté beaucoup en termes de qualité. Donc on a besoin de tout le monde dans la gastronomie et je pense qu'il faut aider à ce que les gens mangent mieux. Pour aider à ce que les gens mangent mieux, il faut instruire. Et pour instruire, c'est chez les jeunes enfants. S'il vous plaît, ouvrez-nous les portes des écoles pour qu'on puisse faire des cours de cuisine et des cours de pâtisserie chez les plus petits, les consommateurs de demain et de l'agriculture de demain. Ce sera les petits d'aujourd'hui. Donc il faut nous aider à rentrer dans les écoles pour faire de véritables cours de cuisine. Parce que dans un cours de cuisine, il y a un cours d'arithmétique, il y a un cours de géographie, il y a un cours d'histoire, il y a un cours de français, il y a un cours d'anglais. Il y a tout dans un cours de cuisine. Donc donne-nous une petite heure par semaine. Et puis vous verrez que la pédagogie cuisine servira le consommateur qui sera le mangeur de demain.
Et en plus les parents seront contents.
On les mettra un petit peu sous pression quand même.
Ouais. Merci beaucoup Thierry Marx d'être passé par Culture Média. Et puis on vous souhaite une bonne fin d'été. Hein.
Merci.
Sans trop de sucre alors. À tout de suite.